Apprenez pourquoi Salmakis est une source impure, pourquoi dans ses ondes l'homme s'énerve et s'amollit. On ne peut méconnaître les faits, j'en vais conter la cause. Dans les antres du mont Ida fut jadis nourri, par les naïades, un enfant fruit des amours d'Aphrodite et d'Hermès. On pouvait à ses traits facilement reconnaître l'auteur de ses jours. Il tira son nom de tous les deux. À peine avait-il atteint son troisième lustre, il abandonna les monts, berceau de son jeune âge. Et loin de l'Ida, il se réjouissait d'errer dans des lieux inconnus, de voir des peuples et des fleuves nouveaux. Un instinct curieux lui rendait plus léger les travaux, les fatigues du voyage. Il avait parcouru les villes de la Lycie. Il venait de quitter cette contrée pour entrer dans la Carie, lorsqu'à ses yeux se découvre un canal immobile, dont l'onde pure et transparente permet à l'œil d'en pénétrer la profondeur. Ni le roseau des marais, ni l'algue stérile, ni le jonc aigu n'en souillent le cristal. Cette fontaine est environnée d'une verte ceinture, abordée d'un gazon toujours frais. Une nymphe l'habite. Inhabile aux exercices de Diane, elle ne sait ni tirer de l'arc, ni suivre un cerf à la course. Et c'est la seule des naïades qui soit inconnue à la déesse des forêts. On raconte que souvent ses sœurs lui disaient « Salmakis, prends un javelot, arme-toi d'un carquois, mêle à tes doux loisirs les travaux pénibles de la chasse. » Mais elle ne prit ni javelot, ni carquois. Elle méprisa la chasse et n'aima que sa solitude et son oisiveté. Tantôt elle baigne dans des flots purs ses membres délicats. Tantôt avec art elle arrange ses cheveux ou consulte pour se parer le miroir de son onde. Quelquefois, couvrant son corps d'un tissu transparent, elle se couche sur la feuille légère ou sur l'herbe tendre. Souvent elle cueille des fleurs. Et peut-être ce dernier soin l'occupait lorsque le jeune hermaphrodite s'offrit à ses regards. Elle le vit et l'aima. Elle se hâtait de l'aborder. Mais avant d'arriver à lui, elle arrange sa parure. Elle compose son visage et son regard et son maintien. Elle brille enfin de tout l'éclat de ses attraits. « Bel enfant, lui dit-elle, croirais-je que tu sois immortel? Es-tu Dieu? Si tu l'es, je vois sans doute l'amour. Ou si c'est à une mortelle que tu dois le jour, ah, combien heureuse est ta mère! Combien heureux ton frère et ta sœur si tu as une sœur! Heureuse encore la nourrice qui t'a donné son sein, mais heureuse surtout, et mille fois heureuse, celle que l'hymen a rendue ta compagne, ou celle que tu trouveras digne de ce bonheur. Si ton choix est déjà fait, permets du moins qu'un doux larcin soit le prix de ma flamme. Et si ta main peut encore se donner, oh, que je sois ton épouse et comble tous mes vœux. » La naïade se tait, hermaphrodite rougit. Il ignore ce que c'est que l'amour, mais sa rougeur l'embellit encore, et son visage ressemble à la pomme vermeille, à l'ivoire qui reçut une teinte de pourpre, au rouge de Phébé, quand les reins sonores appellent en vain pour la délivrer, un magique secours. Souvent la nymphe implore au moins ces baisers innocents qu'une sœur donne et reçoit d'un frère. Déjà ses mains étendues allaient toucher l'ivoire de son cou. « Cessez, dit-il, ou je fuis, et j'abandonne et ces lieux et vous-même. » Salmakis a frémi. « Jeune étranger, répond-elle, je te laisse, sois libre et maître dans ces lieux. » À ces mots, elle feint de s'éloigner. Et se glissant sous un épais feuillage, elle plie un genou, s'appuie sur l'autre, regarde et voit sans pouvoir être vue. Se croyant seul et sans témoin, le fils de Mercure et de Vénus joue sur le gazon, va, revient, essaie un pied timide sur une eau riante et tranquille, le plonge ensuite jusqu'au talon. Et bientôt, invité par l'onde tiède et limpide, de son corps délicat il détache le vêtement léger. La nymphe le voit, l'admire et s'enflamme. Ses yeux étincellent, semblables aux rayons que reflète une glace pure exposée au feu brillant de l'astre du jour. À peine la nymphe diffère. Elle retient à peine ses transports, et déjà éperdue, hors d'elle-même, elle brûle et ne se contient plus. Hermaphrodite frappe légèrement son corps de ses mains et s'élance dans les flots. Il les divise en étendant les bras et brille dans l'onde limpide comme une statue d'ivoire, comme de jeunes lys brilleraient sous un verre transparent. « Je triomphe !» s'écrie la nymphe. « Il est à moi !» À l'instant même, dégagée de sa robe légère, elle est au milieu des flots. Elle saisit Hermaphrodite qui résiste, elle ravit des baisers qu'il dispute, écarte et retient ses mains, malgré lui, presse son sein sur son sein, l'enlace dans ses bras, s'enlace elle-même dans les siens, rend enfin inutiles tous les efforts qu'il fait pour s'échapper. Telle, emportée vers les cieux par le roi des airs, un serpent, la tête pendante, embarrasse ses longs anneaux, les serres et les ailes étendues de son ennemi. Telle au tronc d'un vieux chêne s'entrelace le lierre tortueux. Telle déployant, resserrant ses réseaux, le polype au fond des mers enveloppe sa proie. Hermaphrodite se débat et résiste et refuse. La nymphe s'attache à lui, redouble ses efforts, le presse et s'écrie. Tu te défends en vain, ingrat, tu n'échapperas pas. Dieu, daignez l'ordonner ainsi, que rien ne me sépare de lui, que rien ne le détache de moi. Les dieux ont exaucé sa prière. Au même instant, sous une seule tête, les deux corps se sont unis. Tels deux jeunes rameaux, liés l'un à l'autre, croissent sous la même écorce et ne font qu'une tige. Hermaphrodite et la nymphe ne sont plus ni l'un ni l'autre et sont les deux ensemble. Ils paraissent avoir les deux sexes et ils n'en ont aucun. Hermaphrodite s'étonne d'avoir perdu dans cette onde limpide son sexe et sa vigueur. Il lève les mains au ciel et s'écrie « Divinité dont je porte le nom, vous, auteur de mes jours, accordez-moi la grâce que j'implore, que tous ceux qui viendront après moi se baigner dans ces eaux y perdent la moitié de leur sexe. » Mercure et Vénus, touchés de sa prière, daignèrent l'exaucer, et sur ces eaux répandant une essence inconnue, leur donnèrent la vertu de rendre les sexes indécis. Les Minéides ont cessé de parler, elles travaillent encore, elles méprisent Bacchus et profanent sa fête. Tout à coup les tambours et les flûtes recourbées, à l'airain retentissant, mêlent leur bruit confus. L'air est embaumé de myrrhe et de parfums. Les filles de Minyas voient verdir leurs toiles, le lierre y serpente, la vigne y pend en feston. En longs ceps s'arrondit la laine qui charge leurs fuseaux. Le pampre sourdit à leur trame, et de la pourpre dont brillaient les tissus, soudain les grappes se colorent. Déjà le soleil était descendu dans le vaste sein des mers. C'était l'heure où règne une clarté douteuse entre la lumière et les ombres, l'heure où n'étant plus jour, il n'est pas encore nuit. Soudain le toit s'ébranle, on voit briller des torches ardentes, des lueurs effrayantes s'attachent aux lambris, et des tiges simulacres horribles hurlent parmi les feux. Tandis que, saisis de terreur, les Minéides, fuyant la lumière et les flammes, se sauvent en divers lieux, dans l'ombre et la fumée, une membrane déliée s'étend sur leur corps et rédrécit. Des ailes légères enveloppent leurs bras. L'obscurité ne leur permet pas de voir comment elles ont subi ce changement. Sans le secours d'aucun plumage, elles s'élèvent dans les airs. Elles sont soutenues par des ailes d'un tissu transparent. Elles veulent se plaindre, et leur voix n'est plus qu'un cri faible qui part d'un faible corps, un murmure aigu. Seul langage permis à leurs regrets. Elles n'habitent point les forêts, mais les toits des maisons. Ennemies du jour, elles ne paraissent que la nuit. Elles volent le soir, et compagnes de Vespère, on les nomme Vespérides.